voix nue. Bonjour à toutes et à tous, à voix nue toute cette semaine avec vous, Claude Régis. Lundi, vous évoquiez vos débuts dans le monde du théâtre à l'aube des années 50. Vous aviez monté à l'époque Lorca, puis ensuite Pinter. Vous aviez travaillé dans des théâtres qu'on appelait de variété, avec des troupes de fortune, dans un état de pauvreté, mais en même temps d'effervescence culturelle et artistique qui nous donnait un goût de nostalgie. Hier, vous évoquiez votre collaboration avec Marguerite Duras, qui fut déterminante dans votre recherche personnelle et psychique d'approche de la vérité. Et dans cette espèce d'espace, espace perdu, c'est le titre d'ailleurs d'un de vos livres, que vous tentez d'approcher depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années, à travers des mises en scène plus particulièrement avec des auteurs contemporains. J'aimerais beaucoup qu'on puisse parler aujourd'hui de Peter Handke. Parce que j'étais, comme de nombreuses auditrices et auditeurs, spectatrice du spectacle de Peter Handke que vous avez fait avec lui par les villages, au théâtre de Chaillot, au Trocadéro, place du Trocadéro. Je me souviens, comme de nombreux auditeurs de France Culture, de cette mise en scène absolument remarquable, par la polyphonie des voix, par l'entremêlement des discours, par l'égalité justement de ces discours incarnés par des acteurs qui portaient haut et fort la prose poétique de Peter Handke, prose poétique mais aussi texte politique profondément engagé vers la revendication de la reconnaissance des plus faibles et des plus opprimés. De tout cela, je me souviens. Et aujourd'hui, Peter Handke est souillé, Peter Handke est mis aux oubliettes, Peter Handke est mis au rancard, Peter Handke est considéré comme un réac, Peter Handke, etc., etc.
Il y a beaucoup de défenseurs aussi.
Alors parlons
c'est une
de Peter Handke.
Une polémique.
Et de parler village.
Oui.
Et ensuite la chevauchée du lac
voilà,
de Constance.
Je crois que si on peut pas parler
double appartenance de Régis Handke.
De mon travail sur Peter Handke sans parler de la chevauchée qui a été la première pièce et qui était la première apparition, je crois, de Handke
en France. Avec Samy Frey, Delphine Seyrig.
Et Lonsdale.
Et Michael Lonsdale.
Et les débuts de Depardieu.
Et les débuts de Gérard Depardieu, qui vous reste fidèle et qui reste votre admirateur.
C'est vrai qu'il en parle. Je crois qu'il a gardé de cette époque aussi, très lié à Duras, mais il a gardé une sorte de nostalgie ou de souvenir.
De fidélité, je pense, que vous lui avez beaucoup appris.
En tout cas, c'est très important. Il y a eu aussi les gens déraisonnables sont en voie de disparition, quand vous parliez d'engagement politique, ou en tout cas de jugement sur la façon dont la société se comporte. Quant à son attitude, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est malheureusement normal que les gens ne comprennent pas. Et j'avoue que moi-même, j'ai du mal à comprendre. Et je pense que...
L'attitude de Handke par rapport au soutien de Milosevic.
Voilà, son soutien à la Serbie, sur lequel il a écrit des livres. Et c'est vrai que personne ne pouvait ignorer ces positions-là. Mais là, j'avais un projet moi-même d'une nouvelle pièce de lui qui s'appelait en français Souterrain Blues, Untertag Blues en allemand. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est une pièce qui passe dans le métro, donc c'est souterrain. Untertag, c'est sous le jour, quoi. Mais pour les Allemands, ça fait penser aux mineurs de fond. Donc il y a tout ce mélange de métro, il est beaucoup question dans la pièce de catacombes, de monde souterrain, de mineurs de fond, et on voit à quel point il s'arrange toujours pour déformer la réalité et à faire communiquer entre elles des réalités qui normalement ne communiqueraient pas. C'est très très sensible dans ce dernier livre qui s'appelle La perte de l'image, et qui finalement donne un peu les clés des choses, c'est-à-dire que ce qui le trouble, c'est tout le travail qui est fait sur les gens de cette société qui fait qu'ils perdent la faculté de créer leurs propres images intérieures. Parce que on est bombardé d'images qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ce fameux monde médiatique, qui finalement, dans son attitude proserbe, c'est ça qu'il veut montrer, c'est que c'est pas vrai que l'information délivre la vérité. C'est vrai qu'on peut diaboliser des gens et sanctifier d'autres gens. C'est vrai que les gens qu'on sanctifie sont aussi diaboliques, que les gens qu'on diabolise sont aussi angéliques. Et puisqu'on parle de l'Ecclésiaste, il y a quand même cette phrase extraordinaire qui dit que là où est le jugement, là est l'injustice. Et là où est la justice, là est l'injustice. Donc ça, c'est quand même 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nouveau. Et c'est peut-être important de le faire réentendre de temps en temps, parce que la justice a beau se ridiculiser, comme les gouvernements se ridiculisent, comme les partis politiques se ridiculisent. On vit vraiment l'ère du ridicule. Je pense que c'est le nouveau millénaire nous a jeté dans un monde qui serait clownesque s'il n'avait pas des conséquences tragiques et sanglantes. Et je crois que c'est ce mensonge, cette simplification de la vérité par les médias qu'il a voulu dénoncer.
Mais autant, en tombant dans le piège de soutenir un dictateur sanglant.
Voilà, c'est ça.
Et de faire un acte de provocation devant sa tombe.
Il a dit à des amis, il a dit, mais ce n'est qu'un exemple. Je répondrai à ça que l'exemple est mal choisi. Et c'est vrai que sachant autant qu'on le sache, alors c'est vrai qu'on est informé par ce qu'on peut savoir, on ne connaît pas non plus les origines, l'histoire de ces peuples, ou c'est des régions et des ethnies extrêmement complexes et des rapports sûrement très, très difficiles, que nous ne pouvons pas juger d'ailleurs de l'endroit où nous sommes, nous. Quand on voit aussi comment le monde est manipulé par les autorités américaines, comme le mensonge est répandu sur les guerres, sur le terrorisme, comme sur la pédophilie d'ailleurs. Donc on voit que toute cette organisation, comme je disais, ce rat qui mange la cervelle des gens, toute cette organisation qui a cette force médiatique qui est imparable. C'est pour ça que peut-être le théâtre peut avoir une force extraordinaire. C'est une chose où il y a des gens vivants devant des gens vivants, sans machine, et où on peut parler encore. Mais toute l'organisation de tout le système qui nous environne, de tout le système commercial, de toute la publicité aussi, qui est un langage, l'invention d'un langage épouvantable, comme on a pu dire que les nazis avaient inventé la langue allemande, la langue de la publicité invente un langage qui pourrit les têtes, et tout le langage médiatique et toutes les langues de bois qui se succèdent, et tous les experts qui se succèdent et qui font parade de leur savoir et de leur connaissance, alors qu'elles sont cloisonnées et qu'aucun ne prévoit les incidences qu'une science peut avoir sur l'autre. Donc, dans ce monde terrifiant, c'est vraiment difficile de savoir la vérité. Et simplement, c'est vrai que j'avais lu le livre qui s'appelle Le Grand Tribunal quand il est allé au jugement. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est une chose qui me surprend. Et ce qui me surprend, c'est que je crois que personne n'en a parlé. Peut-être vous pourrez me le dire. Mais au moment de la mort de Wilsonowicz, on a dit on va faire une autopsie extrêmement poussée. La famille a demandé des médecins russes. On a dit, on ne peut pas faire par des Russes, mais on va faire tout très poussé. On a dit ça va être très long parce que on regarde même la moelle des os, je ne sais pas quoi. Bon, c'est extrêmement long. Mais au bout de ce temps très long, personne n'a dit s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Vous l'avez entendu dire? C'est quand même tout à fait extraordinaire. On aimerait bien le savoir.
Mais par rapport à la vérité, justement, et par rapport à cette collaboration que vous avez eue et que vous continuez à avoir avec Peter Handke, cette amitié qui passe par les textes et par l'écriture, par les villages. Je me souviens qu'un des personnages de Par les villages tenait un discours d'ouvrier et que Peter Handke avait invité son frère, qui lui-même est ouvrier, à une de vos représentations et qu'à l'issue...
C'est pas, c'était en Autriche. Quand la pièce s'est jouée en Autriche, son frère ne parle pas français. Je crois qu'il n'aurait pas compris. Il n'est pas venu à Paris, d'ailleurs. Mais son frère a dit, oui, c'est comme ça que je parle.
C'est comme ça que je parle, c'est ça la vérité.
C'est ça, oui.
Donc, quels sont les rapports pour vous et selon vous entre vérité, écriture de textes théâtraux pour Peter Handke, représentation du réel, message éventuel à transmettre?
Bah,
compliqué,
ouais,
hein?
C'est très compliqué, mais je pense que plus le discours tendancieux se précise, moins l'œuvre devient intéressante, quoi. Et quand je parlais de la perte de l'image, c'est qu'on peut y voir tout ce qu'on veut, mais il y a aussi une telle folie dans des hôtels qui sont en forme de tente, dans une guerre où il y a des voitures de sport qui sont mêlées aux chars d'assaut, tout ça dans la montagne d'une manière tout à fait impossible. Quand la banquière, puisqu'il le dit comme ça, mais cette banquière, c'est aussi lui, c'est aussi celui qui écrit le livre, donc on cherche quelqu'un pour écrire le livre, mais c'est lui qui l'écrit. Donc tout est tellement mélangé, les réalités sont tellement imbriquées, se déforment tellement, que le message, s'il y en a un, passe en filigrane, bien sûr, mais il ne passe pas à l'état de message, quoi. Et je pense que c'est... Dans la chevauchée, bien sûr, il y a des rapports de force, il y a des rapports d'argent, il y a toutes sortes d'étranges dominations qui circulent, mais il s'arrange aussi pour dire que celui qui est dominé, de par sa situation de dominé, peut dominer le dominant. Ce qui est une vérité certaine.
Et une vieille histoire.
Voilà, donc c'est très contradictoire. Tant que la contradiction est là, je pense qu'on reçoit ce qu'il faut. Quand c'est trop à sens unique, à voix unique, là, son acte n'est pas ambigu.
Et mais peut-on juger...
Il est un peu spectaculaire, c'est ça aussi qu'on pourrait...
Provocateur.
Reprocher, oui.
Mais peut-on juger un auteur, justement, et dire qu'on ne va pas le représenter alors qu'on connaît ses prises de position depuis longtemps, puisqu'elles étaient officielles
alors,
et publiques?
On va être obligé de reparler de l'antienne de Céline.
Oui.
Alors, le problème s'est posé. Et beaucoup de gens l'ont résolu en ne lisant plus Céline ou en l'excluant comme auteur. Je ne pense pas qu'il y ait eu de censure qui fait que les livres aient été retirés des librairies. Mais il y a un conditionnement des esprits qui fait que les gens sont plus ou moins empêchés de fréquenter cette œuvre-là, quoi. Et alors, c'est Olivier Py a résolu le problème en disant quand il sera mort, on pourra condamner ses prises de position et admirer son œuvre. Mais je ne crois pas, parce que après, d'abord, je trouve que c'est très spécieux d'attendre
chrétien.
La mort de quelqu'un.
Et, christique.
Oui, pour le jugement.
De la part d'Olivier Py.
Pour le jugement. La rédemption. Mais voilà, donc c'est une chose vraiment très, très difficile. Je pense que c'est quelque chose qui est secret à lui. C'est une chose épidermique. C'est une chose... Qu'il n'y a que lui qui peut le comprendre, il n'y a que lui qui peut le vivre, et peut-être même que lui-même est entraîné au-delà de ce qu'il voudrait. En même temps, il y a une conscience tellement claire, tellement précise, et une volonté tellement nette de la faire apparaître, que les questions restent absolument sans réponse.
Vous aimez, depuis plus de 50 ans, Claude Régis, mettre en scène des auteurs contemporains. Donc, pour la plupart, des auteurs vivants, même si des auteurs ultra contemporains, ultra incandescents, hélas, sont morts, comme Sarah Ken, dont nous parlerons. Mais vous aimez aussi rencontrer ces auteurs. Vous aimez parler avec eux. Vous avez aimé parler avec Peter Handke, parler avec John Foss, parler avec Gregory Motton. Vous aimez aussi approcher les êtres qui écrivent. les textes que vous montez.
C'est terrible à dire et c'est triste, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je n'ai pas... J'ai développé des relations amicales avec très peu d'écrivains, sûrement avec Duras, parce qu'on a d'ailleurs beaucoup collaboré, on a beaucoup travaillé, donc on a forcément beaucoup parlé, puis on se voyait aussi en dehors du travail. Et j'ai aussi une grande amitié avec Nathalie Sarraute, et Dieu sait que c'était deux femmes et deux écrivains qui, même si elles ont appartenu au Nouveau Roman au début...
Ne s'aimaient guère.
En tout cas, en sont venues à faire des œuvres extrêmement différentes et étaient des personnes extrêmement différentes. Mais ça, je veux dire que c'est des auteurs avec qui j'ai beaucoup échangé. Mais avec Ante, j'ai jamais pu vraiment parler. Et même dans cette entreprise-là où j'ai annulé le spectacle, mais moi, pas du tout, pour les raisons dont on parlait, simplement parce que la production était trop difficile et que les conditions de travail étaient insuffisantes pour qu'on se sente rassuré sur le résultat du travail lui-même. Mais la parole avec lui est différente et il est très capable d'un amour incroyable, d'une douceur incroyable, mais il peut être d'une violence et d'une méchanceté corrosive. Et justement, je peux le dire, mais par exemple, quand il est venu voir La Chevauchée, que par la suite il a cité comme peut-être des mises en scène les plus intéressantes qu'il ait vues en Europe, ou je sais pas quoi. Mais en même temps, il m'a dit, c'est pas possible, tes acteurs, Lonsdale, Depardieu, sont des acteurs mécaniques. Je n'aime pas du tout. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais dire que Lonsdale est mécanique ou que Depardieu est mécanique, ça paraît. Donc, il y a eu un besoin très, après le dernier filage des gens déraisonnables, il m'a convoqué pour me dire, j'avais cessé d'avoir honte depuis hier soir, j'ai de nouveau honte. Donc des choses terribles et ces acteurs dont vous parliez, il les a détruits tous à peu près sans exception. Donc les rapports ne sont pas faciles et avec Motton, ça a été très difficile parce que en fait, il ne supporte pas la mise en scène. Pourquoi nos rapports en sont venus à ce que au lieu de faire une manifestation au Petit Odéon, je me suis arrangé pour qu'il puisse monter une de ses pièces au Petit Odéon parce que il ne supporte pas. D'ailleurs, je crois que ça a pas beaucoup développé ses affaires. Il ne supporte aucune mise en scène. C'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on peut comprendre. Hein. Je crois qu'il y a des auteurs qui sont tellement... Après tout, Sarraute, quand on faisait des filages, elle avait la tête entre les mains et les mains entre les genoux. Et Duras, comme on l'a dit, a quand même fini par dire ses textes elle-même. Donc il devait bien y avoir quelque chose qui ne la satisfaisait pas dans la façon dont les meilleurs acteurs le faisaient. Donc on touche à un problème très, très intime. Mais ce que j'ai analysé aussi, parce qu'on croit que c'est bien que les auteurs assistent aux répétitions, qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait des échanges, que les acteurs aident les auteurs à écrire, que les metteurs en scène aident à reconstruire la pièce. Je crois que c'est tout à fait faux parce que l'essentiel de l'écriture vient de l'inconscient. Il y a une part, bien sûr, lucide, organisée, très, très, très planifiée, travaillée. Mais en même temps, pendant même l'acte de créer, tous les créateurs le disent, il y a une espèce d'envahissement de l'inconscient. Et que, probablement, que la meilleure des choses et même les meilleures des formulations qui viennent dans une écriture sont celles qui viennent de l'inconscient. Et que par conséquent, si on travaille sur l'inconscient de l'écriture, ce n'est pas ça que l'auteur croit avoir écrit, je pense. Et qu'à la limite, s'il avait une reconnaissance de son inconscient, ça serait extrêmement dérangeant. Donc moi, je ne crois pas tellement. Je crois qu'il faut, ou un auteur ne veut pas donner ses textes, veut les garder dans la pureté de leur écriture, où il accepte qu'elle soit montrée au public. Et pour ça, il faut passer par un intermédiaire. Je l'ai dit moi-même à Handke, d'ailleurs. L'intermédiaire est forcé d'intervenir. C'est-à-dire, si je n'interviens en rien, si je ne donne rien de moi, si le texte ne traverse pas moi-même, si l'inconscient de l'auteur ne se fonde pas avec mon inconscient et que je mélange mon inconscient avec ceux des acteurs et donc celui de l'auteur, aucun travail n'est possible. Mais chacun intervient. Tous les gens qui participent à une création interviennent et quelque chose de leur personne se manifeste là. Et c'est ce mélange de toutes ces manifestations qui crée quelque chose d'intéressant et de tout à fait surprenant pour tout le monde. On ne se reconnaît totalement et on ne se reconnaît pas du tout dans un spectacle. Et si les acteurs pouvaient se voir, ils ne se reconnaîtraient pas. Je ne sais pas comment les acteurs voient le spectacle qu'ils font. Ils ne peuvent pas le voir. Ils en ont une perception étrange. Je crois qu'ils croient qu'ils le voient d'une certaine façon. Ils en ont sûrement une vision, mais ils ne le voient jamais puisqu'ils sont eux-mêmes en train de le faire. Donc tout ça touche à des choses très 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 secrètes, mais personnellement, quand il se trouvait que des grandes amitiés se sont développées, comme avec Duras ou Sarraute, Sarraken, je ne peux pas en parler, puisque j'ai connu son œuvre qu'après sa mort, et j'ai monté son spectacle après sa mort. Cela dit, elle se révèle tellement dans ce qu'elle écrit, parce que j'ai retravaillé beaucoup sur Manque dans des ateliers d'école, ou aussi d'ailleurs sur 448, qu'on a repris deux fois en tournée, donc c'est un texte que je connais vraiment très, très bien, donc j'ai l'impression de la connaître, mais je n'ai jamais parlé avec elle. Et probablement, elle m'aurait dit des choses terribles, parce que je crois qu'elle était très violente, je pense. Et qu'elle supportait aussi très très mal tout ce qui lui semblait ne pas correspondre exactement à la sensation qu'elle avait elle-même. Quoi.
Qu'est-ce qui détermine votre désir de, je dirais pas d'adapter, mais de transmettre un texte?
Ben, c'est une question qu'on m'a souvent posée, mais je ne trouve pas autre chose à répondre. Je sens justement cette vie non matérielle dont on parlait l'autre jour, qui est dans l'écriture. C'est cette vie-là qui m'atteint ou qui ne m'atteint pas, ou qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des écritures où elle n'existe pas. Et c'est quand je sens cette vie-là qui passe à travers les lignes et qui passe dans mon sommeil après quelques jours et que je replonge et que je relis et que je retrouve les choses, c'est cette vie-là, c'est cette vie non matérielle et en grande partie émanée de l'inconscient. Quand je la reconnais, quand je sens que je peux vivre avec elle, alors j'ai envie de vivre avec elle, et sinon j'ai pas envie, donc je ne m'en occupe pas.
Et quand la dernière représentation s'achève, comment faites-vous le deuil du secret du texte?
Ben, en allant chercher des secrets dans d'autres textes, c'est peut-être le même secret d'ailleurs, c'est pas des secrets si différents, c'est la même matière en tout cas. Donc c'est la même matière qu'on retrouve sous d'autres formes, je pense.
Merci Claude Régis, on se retrouvera demain pour la quatrième émission avec vous de toute cette semaine qui vous est consacrée. À voix nue, Diffy Mariani, Laure Adler, on se retrouvera demain avec Claude Régis.
En juillet 2006, Laure Adler s'entretenait avec le metteur en scène Claude Régis. Retrouvez et podcastez la série d'entretiens sur franceculture.fr.